Il est 8h.
C'est bizarre de passer de seul au monde sur son bateau à cette arrivée, à ces feux d'artifice, à cette victoire sur le Vendée Globe. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, ouais.
Il n'y a qu'un seul trophée du Vendée Globe, mais c'est comme si deux hommes l'avaient gagné. Yannick Bestaven, le vainqueur cette nuit, et Charlie Dalin, qui était arrivé le premier dès hier soir. L'émotion des deux marins et notre envoyé spécial en direct des Sables d'Olonne. Dur retour à la réalité d'un pays qu'ils ont quitté il y a 80 jours, quand il était confiné. La France voit ses réanimations se remplir peu à peu de nouveaux reportages à suivre. Et puis, cette question sur les vaccins. Comment expliquer le ratage des grands labos français, Sanofi, l'Institut Pasteur? Et comment se fait qu'on laisse partir en Angleterre des doses produites par une start-up nantaise? C'est le dossier d'Europe 1 ce matin. À la une enfin, ce réseau de hackers démantelé par la police européenne et qui avait pris le contrôle de centaines de milliers d'ordinateurs.
Juste après ce journal, les Français, cette menace d'un troisième confinement, résignés ou rebelles comme ces restaurateurs qui veulent rouvrir? Jérôme Fourquet, politologue, directeur du pôle opinion et stratégie de l'IFOP, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Couvre-feu à terre, mais feu d'artifice au bord de l'eau et feu de Bengale en mer. Des sirènes d'un cargo klaxonnent de toute une flottille de petites embarcations. La nuit a été sonore sur la côte vendéenne pour saluer la victoire de Yannick Bestaven sur le Vendée Globe.
En direct du ponton d'honneur des Sables d'Olonne. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour à tous.
On est avec vous depuis 5h ce matin. Corinne, nuit blanche pour vous, comme pour les 4 premiers skippers arrivés depuis hier soir.
Oui, le nouveau vainqueur du Vendée Globe, d'ailleurs, continue sur un rythme effréné à terre après un final éreintant en mer pour gagner le droit de soulever ce trophée. Alors, c'est vrai que Yannick Bestaven était engagé dans une course contre la montre, en quelque sorte, hein, avec ce jeu des bonifications pour l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier. Hier matin, il a cru que tout s'écroulait quand une pièce de son monocoque casse, heureusement sans grande conséquence. Il augmente la cadence tout en restant vigilant au trafic maritime. La collision de l'Allemand Boris Herrmann avec un chalutier dans le golfe de Gascogne hier soir sonne comme un avertissement. À 20h35, Charlie Dalin franchit le premier la ligne au large des Sables. Yannick Bestaven sait alors qu'il doit pointer sur la ligne moins de 10h15 après Dalin pour l'emporter. Il est finalement arrivé peu après 4h ce matin, 8h après Dalin, c'était gagné.
Corinne, on vous retrouve dans un tout petit instant, mais à tout seigneur, tout honneur.
Oui, car après 80 jours de solitude totale, Yannick Bestaven, aussitôt le pied posé à terre, a eu face à lui la foule, c'est bien normal, des micros et caméras.
Je pars jamais sur une course en me disant que je peux pas la gagner. Donc je m'étais dit, ouais, peut-être que je peux la gagner. Mais bon, celle-là, quand même, je disais, là, il va falloir t'arracher. Après, c'est vrai que dans les mers du Sud, quand je me suis retrouvé en tête, je conseille croire. Quand je passe au Cap Horn en tête, je me dis, voilà. Quand je me fais rattraper au Brésil, je me dis, c'est mort, c'est fini. Je me dis, tu vas être comme Jean Le Cam, le seul à passer en tête au Cap Horn et à pas finir en tête le Vendée Globe. Et puis, voilà, puis je pensais pas pouvoir raccrocher le peloton de tête. Et puis si, ça l'a fait, parce que j'ai toujours cru en moi, et ça m'a permis de revenir comme une fusée, quoi.
Les premiers mots de Yannick Bestaven sur Europe 1 ce matin, après sa victoire sur le Vendée Globe.
Corinne Boulou, toujours avec nous depuis les Sables d'Olonne. Corinne, qu'est-ce qu'on fait dans une carrière de skipper une fois qu'on a bouclé et même gagné un Vendée Globe?
Eh ben déjà, gagner un Vendée Globe, c'est empocher un chèque de 200 000 euros. Ensuite, comme vient de me le préciser son team manager Anne Combier, eh bien Yannick Bestaven va changer de dimension sportive. Il ne sera plus considéré comme l'éternel outsider et il va changer de dimension médiatique. Il va conserver la même équipe, mais il peut réfléchir à un avenir qui s'annonce radieux.
Corinne Boulou en direct des Sables d'Olonne pour Europe 1.
Et il y a deux héros aujourd'hui. Le troisième, qui est en fait le vainqueur grâce aux compensations, vous avez suivi, c'est Yannick Bestaven. Et le premier arrivé, qui finit deuxième, c'est Charlie Dalin.
Charlie Dalin que nous avons suivi tout au long de sa course avec ses carnets de bord, en podcast, chaque semaine. D'ailleurs, une version intégrale de ce récit est en ligne disponible sur europe1.fr.
Oui, alors lui, il faut le féliciter tout autant pour sa course, pour son état d'esprit, pas le genre mauvais joueur. D'ailleurs, sur Europe 1 ce matin, Sébastien Krebs a pu discuter quelques minutes de ce drôle de duo en tête du Vendée Globe. Quelques minutes en direct avec Charlie Dalin.
J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots là avec lui. Voilà, c'est fair play. C'est vrai que ça, on s'est partagé la tête de course avec lui. Il a fait une très belle fin de Pacifique là, en prenant beaucoup de risques, et voilà, ça lui a permis de creuser un certain écart à ce moment-là. C'est un sacré compétiteur, et voilà, il a vraiment montré qu'il était très à l'aise dedans.
Charlie Dalin, interview en direct. C'était à 6h40 avec Sébastien Krebs et Laurent Pellet.
Et après l'immensité des océans, les skippers vont devoir se réhabituer à la terre ferme. Et à 2-3 contraintes.
Oui, le port du masque, par exemple, le couvre-feu à 18h et peut-être bientôt des nouvelles restrictions. Le gouvernement évoque parmi les scénarios celui d'un confinement très serré. Jean Castex va consulter très largement aujourd'hui et demain syndicats, responsables politiques. Une démarche déjà menée juste avant les confinements du printemps et de l'automne dernier. Car depuis bientôt 3 semaines maintenant, le nombre de personnes en réanimation augmente. En continu, on en est à 3100 patients.
La tension se ressent aussi dans les hôpitaux de villes moyennes et dans des régions qui avait été épargné jusqu'à présent. Nous allons retrouver Stéphane Place. Vous en êtes rendu compte par vous-même, Stéphane, à La Réole et à Langon.
Oui, en l'espace de quelques jours ici au centre hospitalier du Sud Gironde, c'est une flambée des cas de Covid. Près de 40 malades hospitalisés, une vingtaine de soignants, médecins compris, contaminés. Situation inédite pour l'établissement depuis le début de l'épidémie. Le docteur Didier Roche, chef de pôle ici à Langon.
Le taux de positivité est passé de en gros 2%, 2 malades sur 100 il y a 15 jours, à plus de 10 à 11% aujourd'hui, 5 fois plus de malades en 15 jours. Ça, c'est à l'entrée de l'hôpital. Sur la pression des différents services, sur les services de médecine des sites de l'hôpital Sud-Gironde, c'est-à-dire environ une centaine de lits, aujourd'hui, physiquement, 30% des lits sont occupés par des patients Covid.
Toute l'activité programmée de consultation a été suspendue, les opérations chirurgicales repoussé, le directeur de l'établissement, Patrick Faugérolas.
Nous sommes amenés à recourir à, par exemple, des infirmières libérales, à des médecins contractuels et à faire appel à des anciens agents qui étaient retraités, qui ont accepté de se mobiliser, de revenir dans l'établissement.
Sans oublier les reports de congés pour faire face à la situation et l'aide du CHU de Bordeaux, voisin, où il a fallu transférer en réanimation 2 patients au cours de ces 8 derniers jours.
Merci Stéphane Place. Votre reportage Europe 1 dans les hôpitaux de la Gironde. Alors pour endiguer la pandémie, on pense bien sûr au vaccin, mais entre le retard de Sanofi et l'abandon de l'Institut Pasteur, les projets français semblent tous être contrariés, tous, sauf un, celui d'une start-up nantaise. Elle s'appelle Valneva, en très bonne voie, mais ce vaccin sera d'abord distribué en Grande-Bretagne. Mathieu Charrier a pu joindre le PDG de Valneva, Franck Grimaud.
On a contacté dès avril un certain nombre de gouvernements, puisqu'il nous fallait sécuriser les financements dès juillet pour lancer la construction de l'usine, lancer les essais cliniques. Et c'est le Royaume-Uni qui a réagi le plus rapidement.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1, le Royaume-Uni a réagi le plus vite et la France n'a pas soutenu cette start-up.
Alors, on peut le regretter, hein, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en France. L'État finance la recherche publique et aide par le biais du crédit impôt recherche la recherche privée. Mais l'État ne finance pas tel ou tel projet privé. Donc, Valneva, Sanofi ou Pasteur sont tous logés à la même enseigne. Par manque de financement, les grandes institutions publiques de recherche, par ailleurs, manquent de moyens chez nous. Les meilleures universités au monde pour la santé sont aux États-Unis. Elles disposent là-bas de moyens colossaux. Et c'est pour cela que les meilleures biotech sont aux États-Unis. Par ailleurs, la France a réduit par 2 entre 2005 et 2015 sa part de marché dans la pharmacie au niveau mondial. Certains, au ministère de l'économie, estiment que l'on a trop cherché ces dernières années à avoir notamment des médicaments les moins chers possibles. On a eu une approche budgétaire qui ne donne pas envie aux grands groupes de chercher en France, conclut un conseiller.
Mais malgré tout, comment est-ce qu'on explique que Sanofi soit complètement à la traîne? Parce que a priori, le groupe ne manque pas de moyens.
Alors ça c'est certain, mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas cru, en tout cas pas assez cru, à cette technique de l'ARM messager. Ils se sont alliés à une petite biotech qui s'appelle Translate Bio, mais pour le moment ça ne donne pas grand-chose. Pfizer, lui, a mis des milliards d'euros dans un partenariat avec la biotech allemande BioNTech. Mais tout n'est pas perdu, hein. Sanofi espère bien arriver à la fin de l'année avec un vaccin compétitif. Et s'ils y arrivent, ce sera le seul grand nom de la pharmacie à s'en sortir seul. Merck, par exemple, a abandonné.
On retient donc qu'il n'y a que les biotech françaises, hein, ces jeunes entreprises qui s'en sortent. Ça veut dire que les grands groupes ne savent plus faire, Emmanuel ?
Eh bien, c'est un peu ça. Et ce n'est pas nouveau dans le monde de la pharmacie. Un spécialiste, hein, me disait hier, la créativité n'est plus chez eux. Ils ne lancent que ce qui est quasi sûr d'aboutir et donc de déboucher sur de gros bénéfices. Donc, ce que l'on appelle l'innovation radicale, celle qui fait la différence, comme aujourd'hui sur les vaccins contre le Covid et l'apanage de ces startups, c'est vraiment là que réside l'avenir. Et c'est pour cela qu'elles se font racheter à coups de milliards d'euros dès qu'elles montrent des résultats prometteurs.
L'enquête d'Emmanuel Duteil pour Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le virus informatique avait infecté des serveurs du ministère de la Justice. Le réseau de hackers Emotet a été démantelé. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Il s'appelle donc Emotet et il est considéré comme le logiciel malveillant le plus dangereux au monde. Neutralisé, a annoncé hier Europol, après avoir piraté un réseau de centaines de milliers d'ordinateurs qui pouvaient ensuite être utilisés ou bloqués.
Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
En France, une trentaine de serveurs ont été infectés, ainsi que certains services du ministère de la Justice, des magistrats et des avocats parisiens.
Oui, et il a fallu coordonner les efforts de 8 pays, dont les États-Unis, le Canada et la France, pour venir à bout de ce monstre du piratage. Un logiciel frauduleux qui, une fois introduit dans les ordinateurs, servait ensuite de porte d'accès pour faciliter des attaques, du pillage de données ou des demandes de rançon, explique Catherine Chambon, qui dirige la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ.
Le logiciel Emotet est le plus gros et le plus dangereux qui a été détecté depuis 4 ans. Emotet distribuait ses malwares par l'intermédiaire de fichiers Microsoft Word et des liens qui étaient utilisés par les victimes.
Ce qui veut dire qu'on pouvait en toute bonne foi recevoir un mail d'une personne de confiance et pourtant il était infecté.
Et pourtant il était infecté et le résultat est en général assez rapidement visible puisque la machine devient inopérante très rapidement.
Ordinateur ou serveur verrouillé et demande de rançon immédiate pour débloquer la machine. 150 millions de dollars auraient ainsi été extorqués par les pirates informatiques qui sont désormais privés de leur arme mais qui n'ont pas encore été interpellés.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Cette information concernant l'affaire Youri, ce jeune de 15 ans tabassé il y a deux semaines dans le 15e arrondissement de Paris. 9 suspects, tous mineurs, ont été arrêtés ce matin à Vanves. Ils sont en garde à vue notamment pour tentative d'assassinat.
Et puis, c'est la série événement de ce début d'année, En thérapie, qui sort aujourd'hui sur le site internet de la chaîne Arte.
Les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, qu'on connaissait notamment pour Intouchable, adaptent une série israélienne, Bitipool. Le principe est de suivre la psychanalyse de plusieurs personnages et pour cette version française, les réalisateurs l'ont transposé après les attentats du 13 novembre. Pour Europe 1, Margot Barallon a pu regarder cette série en avant-première.
Vous étiez parmi ceux qui sont rentrés au Bataclan vendredi ?
Cette question, c'est Philippe Dayan, psychiatre chevronné, qui la pose à l'un de ses patients au début de la série. En face de lui, Adel Chiban, policier à la BRI, qui ne se remet pas de son intervention le soir du 13 novembre.
Pas un tir, pas un cri, un vrai silence de mort. Il y a juste les sonneries de portable, des centaines de sonneries de portable.
Si les attentats ne sont pas le seul sujet d'En thérapie, ils en constituent le fil rouge, imprègnent le vécu des 7 personnages et donnent à la série son élégante mélancolie. Portée par des figures du cinéma français, Carole Bouquet, Reda Kateb, Mélanie Thierry, le projet a été mûri pendant 4 ans par son co-créateur, Éric Toledano.
La situation post-attentat est le moment qui nous déclenche la nécessité que la série existe. Il faut toujours essayer de prendre en flagrant délit son époque. Et cette époque, elle est faite forcément pour tous ceux qui l'ont traversée. Cette marque a eu des attentats sur nous.
Toute de dialogues ciselés et de chants contre chants, En thérapie parvient, malgré 35 épisodes quasi tous à huis clos, à ne jamais traîner en longueur. Un visionnage parfois éprouvant, mais toujours captivant.
En thérapie, la nouvelle série signée Olivier Nakache et Éric Toledano.
Oui, c'est à voir sur le site internet de la chaîne Arte. Ce sera diffusé à partir de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je peux déjà vous l'annoncer, Olivier Nakache et Éric Toledano seront nos invités dans le tête-à-tête Europe Matin. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Et nous retrouvons Sonia Mabrouk avec son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour à vous Mathieu et bonjour à tous. Alors il y a une question à la une ce matin de vos journaux. La résilience des Français peut-elle basculer vers la désobéissance sous la menace d'un recours? Confinement, c'est la grande crainte d'Emmanuel Macron, dont le mandat est émaillé de bouffées de violence. Qu'en est-il en France ? Notre invité est un spécialiste de l'opinion, Jérôme Fourquet. Soyez à l'écoute.
A tout de suite, il est 8h15.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jérôme Fourquet, politologue, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, auteur de L'Archipel français.
Exactement. Bienvenue et bonjour à vous, Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste reconnu de l'étude de l'opinion. Vous avez donc conceptualisé l'archipélisation de la société française. Vous avez mené aussi une enquête sur le confinement de la France. Et en ce moment charnière que nous vivons, il est très utile de comprendre avec vous comment évolue l'opinion. Alors vous disposez ce matin, Jérôme Fourquet, des tout derniers sondages sur notre acceptabilité face à un très probable reconfinement. Est-ce que l'opinion publique a évolué sur ce sujet ?
Alors oui, l'opinion publique a évidemment évolué sur ce sujet d'une adhésion à un troisième reconfinement. Quand on dit une évolution, c'est par rapport au début de cette crise sanitaire. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, au mois de mars dernier, au moment du premier confinement, plus de 90% de la population à l'époque approuvait le confinement qui, on s'en souvient, avait été très dur à vivre, mais pour autant, la peur aidant, l'écrasante majorité adhérait à ce confinement. Quand on se projette un peu plus proche de nous dans le temps, le 28 octobre dernier, quand Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place du deuxième confinement, le confinement de l'automne, deux tiers des Français approuvaient cette décision. Nous étions encore à peu près à 60% d'adhésion sur l'éventualité d'une prolongation de ce deuxième confinement début décembre. Mais à l'époque, il y avait, si je puis dire, un bénéfice, une carotte qui était promise aux Français, c'était la perspective de pouvoir passer des fêtes de fin d'année en famille. Aujourd'hui, les derniers chiffres dont on dispose, l'enquête a été réalisée hier et avant-hier, indiquent que 47 à 46% de Français adhéreraient à un troisième confinement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on voit que nous avons descendu d'une marche en termes d'adhésion, parce qu'il n'y a pas de perspective positive comme il y avait avec les fêtes de fin d'année pour le deuxième confinement. Et puis et surtout parce qu'il y a un effet d'usure,
bien sûr,
et d'accumulation.
On va insister sur ce phénomène d'usure, mais ce qui est frappant aussi, Jérôme Fourquet, dans ces études, c'est que le souhait d'un reconfinement dur est plus important chez les plus jeunes d'entre nous. C'est assez incompréhensible. On a envie de vous entendre sur ce sujet ce matin, parce que ce sont ceux qui sont en plein désarroi, qui ont même pour certains des idées suicidaires. Ils veulent que ce soit plus rude.
Alors, une partie d'entre eux, pas tous, bien évidemment, on peut faire l'hypothèse qu'ils voient dans cette option d'un confinement dur une thérapie de choc qui permettrait de balayer cette crise et d'enfin pouvoir tourner la page. À l'inverse, on constate que les publics les plus âgés, eux, sont les plus réfractaires à un confinement dur, alors qu'ils sont les plus inquiets face au virus, mais parce qu'ils disposent prioritairement de l'accès à la vaccination, qui change quelque peu les choses.
Alors cette usure, est-ce que selon vous, et ce que vous voyez dans vos sondages, Jérôme Fourquet, c'est de la résignation, une résignation fébrile, ou est-ce qu'il y a les ferments d'une contestation ?
Alors je serais tenté de dire qu'on est plus sur, d'une manière générale, sur une forme d'acceptation résignée, autour de la formule très française, par la force des choses, c'est-à-dire... Les faits s'imposent à nous, il n'y a pas de plan B. Les Français constatent, grâce au travail des journalistes, que ce qui se passe à l'étranger ne nous dessine pas d'horizon positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays à montrer en modèle et sur auquel on pourrait se raccrocher. Et donc, dans ce contexte-là, la peur étant toujours présente, il y a cette forme de résignation à accepter un certain nombre de mesures contraignantes.
Jérôme Fourquet, je vais vous laisser poursuivre, mais vous dites en regardant à l'étranger, il y a aussi ces mouvements de manifestation, alors que ce soit en Europe du Nord, on a vu aux Pays-Bas, mais c'est davantage pour les libertés, mais aussi en Europe du Sud, où il y a en tous les cas des tensions parce qu'il y a de la désespérance sociale. Et nous, entre les deux, on ne bouge pas, on regarde.
Alors pour l'instant, on ne bouge pas. Il y a cette résignation qui est sans doute majoritaire. Il ne faut pas minimiser la colère et la lassitude très croissante d'une grande partie de nos concitoyens. Donc il faut être modeste sur comment les choses vont évoluer. Tout dépendra sans doute des modalités d'un éventuel confinement. Mais pour revenir à vos deux exemples, tout ça est intéressant pour éclairer un petit peu la psychologie française ou la situation du pays. Pour ce qui est des mobilisations qui seraient plus politiques au nom des libertés individuelles, qu'on connaîtrait aux Pays-Bas, parce qu'aujourd'hui les émeutes sont quand même assez confuses dans leurs motivations, ou qu'on a connu en septembre dernier en Allemagne avec des manifestations de rue contre le port du masque obligatoire. Là, on voit bien qu'on est dans des pays où la défense des libertés individuelles est totalement sanctuarisée. Les Pays-Bas vivent leur premier couvre-feu depuis 1945. Et le couvre-feu est en vigueur à partir de 21h ou 21h30. Donc, vu de la France, c'est un autre monde. Et donc, on a plutôt privilégié la sécurité aux libertés individuelles, et je pense qu'il y a un relatif consensus là-dessus. Et puis, vis-à-vis de ce qui se passe, vous avez raison, dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, là, ce sont plutôt des mouvements de désespérance économique et sociale de la part de certains acteurs économiques qui sont au bout du rouleau, qui sont exsangues, des restaurateurs, des commerçants, et qui pratiquent une forme de désobéissance civile pour sauver ce qui peut l'être. Pourquoi n'observe-t-on pas de manière importante à date de tels phénomènes chez nous? Sans doute parce que la perfusion économique qui est assurée par le gouvernement en direction de ces secteurs est quand même plus généreuse, même si, bien évidemment, le secteur de la restauration, comme d'autres, souffre énormément dans
mais
notre pays.
Entre les deux, entre ces deux parties de l'Europe, nous sommes attentistes, mais il y a quand même, Jérôme Fourquet, on l'a évoqué dans nos différents journaux ce matin, des restaurateurs qui veulent rouvrir probablement, là, le 1er février, déjà un restaurateur niçois qui a ouvert, il y a le hashtag « Je ne me confinerai pas », il y a aussi, on peut le citer, ce pot dans un commissariat, et puis plus largement, il y a des témoignages poignants de détresse. Qu'est-ce que tout cela incarne ?
Eh bien que notre société est confrontée à une crise majeure, à la fois sanitaire mais aussi économique et sociale, depuis bientôt un an, et que tout ça, bien évidemment, produit de très graves traumatismes et laisse des séquelles béantes dans le corps social. Et donc la société ne va pas bien, elle n'est pas indemne du tout, mais il y a quand même globalement collectivement et majoritairement une forme de résilience.
Mais par quoi elle tient cette résilience si on va plus loin? Parce que lors du premier confinement, elle tenait par une peur, une chape de peur qui expliquait que les Français étaient même sidérés par le premier confinement. Là, on a l'impression quand même qu'elle n'est plus autant présente, même si la situation sanitaire reste préoccupante.
Alors, les enquêtes qu'on réalise nous montrent que le niveau d'inquiétude face à la perspective d'une contamination demeure partagé par 7 Français sur 10, ce qui est beaucoup. On était à 90% lors du premier confinement, mais on est encore à 7 Français sur 10. On a été très frappés dans nos enquêtes qui ont été réalisées avant Noël et qui ont été confirmées à la suite des fêtes de fin d'année sur l'attitude qui était celle de nos concitoyens de respect des gestes barrières et des principes de précaution en milieu familial. C'est-à-dire que là, au pied du sapin, autour de la bûche, il n'y avait pas de gendarmes ou de policiers. Et pour autant, les Français, manifestement, ont majoritairement pris leurs précautions.
Alors ça, c'est très intéressant. Donc vous dites oui.
Ce qui nous indique bien que même en milieu fermé ou familial, si ces mesures ont été respectées, c'est bien que la peur était dans les têtes ou le principe de responsabilité pour ne pas contaminer les proches. Parce que c'est quelque chose de très important. On est sur une épidémie, donc un principe de contagion. Et donc il y a la peur pour soi. Mais ce qui vous fait redoubler de vigilance, c'est la peur pour vos proches et pour ceux que vous aimez,
donc,
notamment ceux qui sont plus vulnérables.
De responsabilité des Français, Jérôme Fourquet, on l'a bien compris dans vos sondages, qui sont très résilients, ils acceptent et consentent à de nombreux efforts, mais ils demandent des contreparties. Il y a un élément en particulier, semble-t-il, dans vos enquêtes, sur lequel les Français n'ont pas compris pourquoi ce gouvernement n'a pas fait ce qui était nécessaire en réalité. Quel est-il ?
Alors, c'est effectivement, vous avez raison, on dit qu'il y avait une forme d'acceptation, mais on n'est jamais qu'à 45 ou 46% qui accepteraient à date un reconfinement. Donc ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui le ferait en traînant vraiment les pieds. Pour que cette acceptation monte en puissance, il faut que cet éventuel reconfinement s'accompagne d'une mise en cohérence du dispositif gouvernemental, et ça passerait notamment par des contrôles très renforcés aux frontières. Il y a une incohérence majeure pour les Français à demander des sacrifices à nos concitoyens, tout en laissant les frontières totalement ouvertes à tous les vents.
Les Français n'ont pas compris quand le gouvernement a dit, certains ministres, le virus n'a pas de passeport.
Alors c'était une bonne formule de communicant, mais les personnes qui étaient porteuses de ce virus, elles avaient un passeport. Oui. Et donc la propagation chez nous s'est faite par l'extérieur. Ça c'était pour le premier confinement, et nous avons revécu la même histoire. Il y en a peut-être eu des témoignages à votre antenne, j'en ai vu dans d'autres médias, d'habitants de Marseille qui, avec leur accent bien connu, déploraient le fait que des Britanniques ou des ressortissants français arrivant de Grande-Bretagne, alors même qu'on savait que ce pays était confronté à un regain épidémique, étaient rentrés sans aucun contrôle. Donc pour faire croître cette adhésion au reconfinement, il faut que le gouvernement montre aussi qu'on verrouille les frontières et qu'un certain nombre de contrôles plus strict soit opéré, notamment aussi pour les personnes qui sont infectées, sur la capacité à isoler, parce qu'on a beaucoup parlé tracé, isolé, et l'isoler, on l'a jamais vu.
L'isolement et ce sujet des frontières
qui est majeur
et qui probablement aussi va beaucoup marquer les prochaines élections. Vous avez théorisé, pour conclure, Jérôme Fourquet, l'archipélisation de la France dans un livre qui a eu beaucoup d'écho. Comment notre société va sortir de cette crise pandémique? Quel sera son visage collectif?
Alors c'est difficile à dire, tout dépendra aussi de la poursuite de cette crise. Est-ce qu'on en voit le bout du tunnel dans quelques semaines ou est-ce qu'il faudra attendre plusieurs mois? Ce qui est frappant, c'est de voir qu'un certain nombre de secteurs économiques ou de populations qui, jusqu'à présent, étaient dans des situations économiques et sociales très correctes ou privilégiées, ont basculé dans autre chose. On a parlé des restaurateurs, on peut parler aussi, par exemple, tout ce qui se passe dans la région toulousaine, dans le secteur de l'aéronautique, où donc des cartes ont été redistribuées et donc des publics qui s'en sortaient plutôt bien aujourd'hui rentrent en difficulté. Oui. Il y aura aussi des interrogations sur la souveraineté nationale, sur l'intervention de l'État et sur comment aussi se comportent nos grandes entreprises. Avec une attente d'une attitude plus patriotique
très
de la part de ces grandes entreprises.
Qui a fourni cet effort de guerre hein,
Qu'avez-vous fait pour votre pays et qu'êtes-vous prêt à faire pour le pays? De ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Sanofi, par exemple, va laisser énormément de traces et fera des dégâts.
Et on retient ce que vous dites, hein, la souveraineté, ce sera donc l'un des axes majeurs aussi de la présidentielle. Vous noterez, Jérôme Fourqueux, vous êtes sondeur, je ne vous ai pas posé de questions sur les sondages, parce que vous me dites souvent, et vous me l'avez dit juste avant cet entretien, les Français ne sont pas encore, n'ont pas la tête à la présidentielle. Voilà pourquoi nous avons axé cet entretien sur la crise sanitaire et ses conséquences. Merci en tous les cas,
merci à vous.
Puisque vous nous avez livré eh bien, les tout derniers sondages. Merci bonne journée.
Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Il est 8h29, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre l'info avec Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol. Restez bien sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, l'heure d'un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Et d'abord cette avancée de l'enquête sur la très violente agression du jeune Youri, 15 ans, dans le quartier de Beaugrenelle. On apprend ce matin que 9 mineurs ont été arrêtés, Guillaume Biais.
Oui, ils ont tous été interpellés à Vanves, tout près de Paris. C'est bien là que se concentraient les investigations des enquêteurs dans cette affaire de rivalité entre bandes. D'un côté, un groupe d'adolescents du 15e arrondissement de Paris que fréquentait le jeune Youri. Et de l'autre, ce groupe de Vanves avec lequel il y avait déjà eu confrontation. L'enquête est allée vite, hein, moins de 2 semaines après le lynchage du jeune garçon. Vidéos, témoignages, téléphonie, empreintes. Les policiers ont exploité tous les indices pour remonter la piste des agresseurs, identifier ces 9 mineurs. Alors, ils sont en garde à vue pour 48 heures maximum. Toute la difficulté pour les enquêteurs, c'est maintenant d'établir la responsabilité individuelle de chaque suspect, et notamment savoir lesquels ont porté les coups les plus violents que l'on a pu voir sur l'enregistrement vidéo de l'agression.
Merci Guillaume Biais. L'adolescent est toujours hospitalisé. Aux dernières nouvelles, il va un peu mieux. Toujours pas de décision de l'exécutif, mais les taux se resserrent et au regard des courbes et des chiffres, Anne Le Gall, le gouvernement n'écarte pas un confinement très serré.
Exactement, car le couvre-feu n'est plus suffisant pour ralentir l'épidémie et les regards se tournent vers le variant anglais qui semble bousculer les courbes vers le haut. Des données qui viennent de paraître montrent que ce variant britannique représentait déjà 3,2% des contaminations début janvier. C'est le double de ce que l'on pensait et selon les hôpitaux de Paris, il concernerait désormais 10% des contaminations en Île-de-France. Pour l'épidémiologiste Pascal Crépet, les résultats d'une nouvelle enquête seront déterminants dans les jours qui viennent.
On sait comment il s'est propagé au Royaume-Uni et au Danemark, on sait que ça a été très rapide. Néanmoins, les mesures qui étaient prises à ces moments-là n'étaient pas exactement les mêmes que celles qui sont prises aujourd'hui en France. C'est pour ça que ce deuxième point d'enquête flash qui va arriver la semaine prochaine va nous permettre de voir à quel pourcentage de variants anglais correspond à la circulation actuelle.
Et selon les scénarios, le gouvernement n'aura peut-être pas d'autre choix qu'un confinement strict avec, pourquoi pas, des vacances scolaires rallongées. À la Toussaint, les congés avaient contribué à infléchir les courbes de l'épidémie.
Anne Le Gall est d'ailleurs ce matin chez nos confrères de France Inter. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé qu'il était possible de réfléchir à allonger les vacances scolaires d'un côté ou de l'autre, mais l'objectif reste que les enfants puissent continuer à apprendre. Emmanuel Macron devrait prendre la parole dimanche soir ou en début de semaine prochaine. En attendant, Jean Castex lance une série de consultations en visio à partir d'aujourd'hui avec les représentants des partis politiques et les partenaires sociaux. Le gouvernement doit aussi prendre en compte la capacité pour les Français d'accepter un nouveau confinement. Hier, un restaurateur niçois a ouvert son établissement au déjeuner en signe de résistance. Il a finalement été placé en garde à vue car son cuisinier était en situation irrégulière. Et puis une enquête administrative est ouverte après un pot de départ dansant au commissariat d'Aubervilliers en région parisienne. Quels sont les pays qui ont le mieux géré la crise du Covid et les moins bons? Réponse avec l'étude australienne publiée ce matin. Elle évalue une centaine de pays, en tête la Nouvelle-Zélande, suivie du Vietnam, de Taïwan et de la Thaïlande. La France n'est que 73e. Le Brésil arrive bon dernier. Vous avez pu le suivre en direct pendant toute cette matinale. Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe, même s'il est arrivé en troisième position. Il a bénéficié de compensations de temps pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Il devance Charlie Dalin et Louis Burton. Les Bleus poursuivent leur route au Mondial de handball. Ils sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire contre la Hongrie. Demain, ils ont rendez-vous avec les Suédois. Et puis un Botticelli vendu aujourd'hui aux enchères chez Sotheby's à New York. Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon qui date de 1480, mis à prix 80 millions de dollars. Cette œuvre est exceptionnelle, comme l'explique Olivier Lefeuvre, directeur du département des tableaux anciens chez Sotheby's Paris.
Il est dans un état de conservation tout à fait extraordinaire, quasi parfait, ce qui est pour une œuvre qui date des années 1480, qui a donc traversé plus de 4 siècles, hein, quasiment 4 siècles et demi, quelque chose d'extrêmement rare. Il est aussi exceptionnel parce qu'il représente un jeune homme, si vous voulez, florentin, tout à fait typique, dont on ne connaît pas l'identité, ce qui garde d'ailleurs une part de mystère. Mais il le présente avec cette originalité de ce jeune homme qui tient un autre tableau dans ses mains, ce qui est une originalité absolue qu'on ne retrouve pas ailleurs à l'époque, en tout cas évidemment que chez Botticelli. Des Botticelli de ce niveau-là, de cette qualité, c'est quelque chose de tout à fait rare et c'est ce qui fait vraiment un événement tout à fait exceptionnel. On a vraiment une icône du marché du tableau ancien qui se présente à nous.
Propos recueillis par Diane Chenouda, verdict cet après-midi vers 16h30.
Merci Hélène Zélani. Et tiens, on a parlé du Festival de Cannes ce matin. Est-ce que c'est une manière de conjurer le mauvais sort? Malgré les craintes de reconfinement et l'incertitude autour de la pandémie, le Festival Solidays a dévoilé une partie de sa programmation 2021. Et comme d'habitude, l'éclectisme, le groupe électro français Justice que vous entendez, ça fait plaisir d'entendre cette chanson d'ailleurs. D'autres artistes français, la chanteuse Suzanne, des francophones aussi comme le rappeur belge Damso.
Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena.
Et bien sûr, des stars internationales, Sean Paul par exemple, ou encore les Black Eyed Peas. Good night. 18 au 20 juin, on va croiser les doigts pour que ça puisse se tenir, Solidays. Et puis aujourd'hui, c'est le début d'une vente aux enchères au profit de SIDAction, événement caritatif qui ne peut pas être organisé comme d'habitude à cause du Covid, bien sûr. Vous pouvez notamment miser aux enchères pour un dîner avec Lynn Renaud ou avec Jean-Paul Gaultier. Tiens, les Black Eyed Peas sur Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous, il est 8h37. Laurent Cabrol, arrêtez de danser Laurent Cabrol. Je sais que ça fait envie, on a envie de se retrouver dans des salles de concert et des festivals. De toute façon, aujourd'hui, il pleut, non?
Oh oui.
Vous savez quoi, on va faire la météo sur les Black Eyed Peas, juste pour le plaisir. Allez-y Laurent Cabrol.
C'est de la pluie et de la douceur. La douceur, c'est pas ce qu'on écoute, mais c'est mignon tout plein. La pluie, elle est là, elle est bel et bien présente. Et elle sera là sur quasiment toute la France, sans trop de respiration, sans trop de parenthèses. Nous aurons un temps pluvieux avec une mention aggravante, si je puis dire, pour l'Ain, le Jura, les Deux-Savoies, l'Alsace en général, la Franche-Comté, le Massif Central et le Poitou-Charentes. Ce sont des régions où les pluies seront particulièrement fortes. Partout ailleurs, et les nuages seront là, les pluies seront comme je disais sans trop de parenthèses parce qu'elles vont être presque continues. Et puis surtout, nous aurons un brin d'éclaircie sur le bassin méditerranéen et une petite amélioration cet après-midi sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà pour l'essentiel. Les températures sont d'une belle douceur entre 12 à Lille et 19 degrés à Béziers, en passant par 15 degrés à Paris, 16 à Bordeaux, 17 à Toulouse. Oui, 15 degrés à Paris, mes enfants. C'est génial.
Quel challenge relevé par Laurent Cabrol. La météo sur les Black Eyed Peas. Vous êtes prêts pour la météo en boîte de nuit, mon cher Laurent. Merci beaucoup. 8h38 sur Europe 1. Le docteur Jimmy Mohamed et Fanny Agostini dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h40 sur Europe 1 et comme tous les jours, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé. Et nous allons parler d'une technique peu connue, mais qui pourtant pourrait aider de nombreux Français qui souffrent de phobie, la thérapie par la réalité virtuelle.
Oui, et ça concerne quasiment toutes les phobies, celle de prendre l'avion, de certains animaux, la peur du noir, la claustrophobie ou même la peur du vide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 60 à 80% de ces personnes qui souffrent de phobie ne consultent pas. Elles vivent avec ce qui va devenir un handicap. Or, il existe quelque chose de très simple, on appelle ça la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Le principe est vraiment enfantin, après un entretien, le but c'est de vous désensibiliser à une situation qui vous fait peur à l'aide d'un casque qui va reproduire justement l'environnement de stress, qui va donc vous mettre dans une situation de réalité virtuelle. Si on prend l'exemple de la phobie de l'avion, qui est assez répandue, eh bien on va pouvoir reproduire l'environnement en le réglant en nature ou en intensité. On va commencer par vous mettre seul dans l'avion, puis on va vous rajouter des passagers, simuler des turbulences et pourquoi pas même rajouter des bruits de bébés qui pleurent. On sait que ça agace tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que l'exposition...
Ça, c'est vraiment vache, c'est juste pour le plaisir des scientifiques en plus, quoi.
Oui, c'est gratuit, ça embête tout le monde.
Il y a des cris de nourrissons, histoire qu'ils craquent vraiment.
Ah oui, mais c'est du vécu. Hein. Alors, l'exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est progressive, mais on va pouvoir la répéter à l'infini. Au cours d'une même séance, vous allez pouvoir faire, par exemple, 15 sessions de décollage d'avion. Ça va augmenter votre sentiment de confiance au fur et à mesure que les séances vont s'enchaîner. Et puis, en cas de stress, vous avez le thérapeute qui est juste à côté. Il vous suffira de retirer votre casque. Alors que si cette attaque de panique survient dans un avion, eh bien là, c'est plus compliqué.
Et cette thérapie par réalité virtuelle, elle est efficace dans quel autre type de pathologie ? Est-ce qu'on peut l'imaginer, par exemple, pour arrêter de fumer ?
Oui, ça marche, et ça marche très bien, notamment dans les addictions, dans l'alcool, le tabac ou d'autres drogues. Et si on prend l'exemple du tabac, 72% des personnes qui vont utiliser cette réalité virtuelle ne vont pas rechuter. Donc c'est une méthode qui est validée scientifiquement. Elle est étudiée depuis les années 90, je vous ai dit que ça marchait dans les phobies, mais ça marche aussi dans les situations d'anxiété, dans les TOC, vous savez, les troubles obsessionnels compulsifs. On a des personnes, justement, en cette période de Covid, qui ont beaucoup plus de TOC liés à la propreté. On vit une période un peu extraordinaire, où il faut tout le temps se laver les mains, on fait attention à l'hygiène. Et donc, ça a renforcé l'angoisse de ces personnes. Il suffit de 10 à 15 séances à raison d'une par semaine qui va durer entre 30 minutes et 1 heure. Vous avez environ 1000 praticiens francophones en France et il existe un site internet sur lequel vous pouvez trouver justement ces praticiens. Ça s'appelle phobie.com. Vous retrouverez aussi plein d'informations sur ce que c'est les phobies et comment les traiter.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, tous les matins. Évidemment, notre santé, notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Fanny, ce matin on va parler d'argent. Comment l'épargne peut servir à la transition écologique ?
Oui, l'argent que nous plaçons en banque doit être utile pour la société et utilisé comme un levier pour la lutte contre le changement climatique. En 2020, l'épargne des Français correspondait tout de même à 756 milliards d'euros, plaçant la France au 6e rang des pays qui épargnent le plus au monde. Et avec cet argent, les banques font évidemment des investissements. Or, il serait temps que nous regardions de près comment notre argent est utilisé, car nous parlons toujours de la difficulté de lever des fonds pour financer des projets vertueux, mais ne serait-ce pas déjà opportun de réorienter les fonds existants ? Alors depuis septembre dernier, les livrets A, développement durable et solidaire et d'épargne populaire seront davantage mobilisés pour financer des projets dans le développement durable, notamment via la Banque des Territoires qui mobilisera 70 milliards sur 5 ans.
À quoi servira concrètement cette épargne dite écologique ?
Alors, elle financera en grande partie des projets menés par des collectivités territoriales tels que la rénovation énergétique des bâtiments et des logements sociaux, mais en passant par d'autres acteurs financiers et économiques, nous, citoyens, pouvons aussi décider directement que notre épargne soutienne les énergies renouvelables, par exemple. Je vais vous citer ce matin la coopérative Énergie Partagée qui finance, grâce à l'épargne de citoyens, plus de 90 sites de production d'énergie renouvelable en France, dont des parcs d'énergie solaire, photovoltaïque, il y a aussi des méthaniseurs, des centrales hydroélectriques ou encore des chaufferies à bois. Et dans le domaine agricole, il y a les plateformes que vous connaissez peut-être de financement participatif telles que Mimosa ou Bluebees qui mobilisent l'épargne des citoyens en faveur de projets d'agroécologie.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère de la finance, une finance engagée, solidaire, Fanny ?
Alors, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. L'investissement socialement responsable, l'ISR, intègre les consciences, mais pas pour toutes les banques ni à la même vitesse. Nous nous rappelons du rapport de l'ONG Oxfam en 2019 qui indiquait que les 6 plus grandes banques françaises investissaient 3/4 de leur argent dans le pétrole, le gaz et le charbon. Ce qui devrait quand même nous interpeller aujourd'hui, c'est que l'argent que nous épargnons, même s'il s'agit de montants modestes, reste le nôtre et exiger qu'il soit mis au service de la planète est aussi urgent à portée de main.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète tous les matins sur Europe 1. À 9h moins le quart, la revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là, Nicolas Canteloup avec vous.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. On retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le grand titre de ce matin.
Oui, et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, une actualité sportive très chaude, vous l'avez entendu, avec l'arrivée, bien sûr, du Vendée Globe, une course exceptionnelle. Nous avons parlé avec Virginie Fulpin, et qui a vu la victoire de Yannick Bestaven, malgré que... Et Corinne Boulle, pardon. Et malgré que ce soit Charlie Dalin qui soit arrivé premier, c'est Yannick Bestaven qui est victorieux. Voilà. Donc même si on n'est pas premier, on peut quand même gagner. Et ça, c'est un vrai beau message d'espoir pour le laboratoire français Sanofi.
Oh, ça y est.
Bon, après, ils sont un peu à la bourre, mais peut-être qu'ils passeront l'année d'arrivée avec un bonus de 2 ans et ils peuvent gagner. Ouais, bon, enfin, bon, voilà. En tout cas, ce Vendée Globe, il faut le dire, c'est...
Non, mais arrêtez ! Mais arrêtez ! Faut arrêter les conneries !
C'est Nadine, non ?
Mais Béliard, oui, c'est la Nadine, comme si tu n'avais pas reconnu. La Leclerc, franchement, faut arrêter les conneries ! C'est pas bien, le Vendée Globe. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Oh, ça va.
Ah bah c'est dur les voix de filles,
ouais,
hein, quand même.
Oh, ça va. C'est... Non, on a 8 octaves dans la gorge. On fait ce qu'on veut, ça s'entend, non ? Faut annuler le Vendée Globe. C'est cette compétition. Faut l'annuler parce que ça donne quoi comme image de la France ? C'est catastrophique. Ça donne quoi comme image à tous les étrangers du monde ? Ça veut dire qu'en France... on peut débarquer n'importe quand sur un rafio et être accueilli par tout le monde, applaudi par une œil d'honneur. Hein ? Faut pas s'étonner, mais oui, monsieur Béliard, faut pas s'étonner de voir débarquer des hordes de musulmans sur des navires Fleury Michon. Hein ? Ben, faudra pas s'étonner, mais c'est tout. Mais oui, mais c'est la grande leçon de Nadine. Voilà.
Oui, bah merci. Merci beaucoup, Nadine
Morano. Non, je continue parce que j'ai retrouvé ma voix. Il n'y a pas de raison.
Trop tard. Non, s'il vous plaît. Allez. Ah, bah prenez la voix de Ségolène Royal. Maintenant, d'accord ? Allez, que des filles. Le couvre-feu n'est pas suffisant. Si, c'est elle maintenant. Le couvre-feu n'est pas suffisant. Il faudra sans doute reconfiner. Et à ce sujet, Ségolène Royal a tweeté « Allô le bon sens !» Allô le bon sens, n'est-il pas évident que le couvre-feu à 18h a accéléré les contaminations ? Il faut remettre le couvre-feu à 22h. Pour éviter une concentration de 17 à 18 heures. Bonjour, Madame Royal. Bonjour.
Oui. La voix est en rendez-vous.
Bon,
oui,
bah c'est bien.
Bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliot, Monsieur Lawson. Hein, allô. Non, mais allô, quoi. Oui, vous l'avez compris, je suis un peu la Nabila du Poitou. Voilà, on reste dans la même région, les Vendée Globes, le Poitou, tout ça, nous sommes voisins. Donc je dis allô le bon sens, hein, allô la Terre. Ici, la planète Ségolène, la seule planète où il y a encore deux sous de jugeote. Hein ? Le couvre-feu à 18h, mais c'est une évidence, monsieur Cabrol le sait, ça a accéléré les contaminations. C'est évident, si on laissait sortir les gens plus longtemps, mais les contaminations baisseraient. C'est évident. Si les gens circulaient plus nombreux et plus longtemps, ils se contamineraient moins. Oui, oh, bah écoutez.
Mais vous êtes sûr ?
Oui, bah, y a mon Becherel qui est un peu endormi encore.
Dites-moi, mais vous êtes sûr de ce que vous dites là, hein ?
Je suis sûr, non mais allô le bon sens ! Mais vous êtes franchement tous débiles dans ce pays ou quoi ? Non mais reprenons l'historique de cette pandémie.
Oui. Hein,
avant le premier confinement en 2019, même en 2018 ou 2017, il n'y avait aucune restriction. Résultat, est-ce qu'on avait des malades ? Aucun malade du Covid-19. Souvenez-vous, vous avez la mémoire courte, pas d'épidémie en 2020, on confine et c'est le bordel, voilà. CQFD, des malades de partout.
Ah non mais dans ce sens-là, ça ne marche pas du tout.
Mais
si,
c'est le bon sens
bon,
près
bref.
De chez vous.
Écoutez, hein, vous préconisez en tout cas un couvre-feu à 22h. Hein,
voilà, il y a encore.
Quoi ?
Idéalement, je pense qu'il faudrait faire un couvre-feu à 4h du matin.
Oui, c'est ça. Ouais.
Uniquement pour les personnes âgées de 3 à 102 ans. Oui, mais c'est comme ça que nous vaincrons l'épidémie. Mais oui, mais il n'y a pas... Bon, écoutez, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille dans le métro et ensuite j'irai tousser sur ma grand-mère Marguerite.
Ah bon ?
Oui, c'est pour la soigner.
Oh, bah d'accord.
Oui, tout ça est très logique. Non, mais où il est le bon sens ?
Ah oui, c'est bon. Merci, allô. Ségolène Royal. C'est fini pour les voix de filles ? Ouais, je crois. Allez, on continue. Va-t'en.
Mes sourcils, Maïté.
8 octaves, alors.
La cuisine des mousquetaires.
Qu'est-ce qu'elle vient faire, là ?
Je sais pas, je suis toujours une âme, personne ne m'interroge. Oh. Bonjour.
Allez, enchaîne, ma Judy, va.
On enchaîne.
Fais un petit cassoulet.
Va-t-on devoir reconfiner ? Emmanuel Macron est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour.
Ce reconfinement, beaucoup de Français n'en veulent pas. Hein.
Écoutez, madame Julie, si on résume, les Français ne veulent pas porter de masque, ils ne veulent pas aller travailler en métro. Mais ils ne veulent pas faire de télétravail non plus. Ils ne veulent pas de l'ouverture des écoles, mais ne veulent pas de l'école à la maison. Ils ne veulent pas de se faire vacciner, mais ils ne veulent pas du couvre-feu. Ils ne veulent pas du confinement.
Oui, bon,
enfin, si je ne connaissais pas mieux que ça les Français, je pourrais tenter de croire qu'ils sont réellement chiants. Hein, je ne sais pas si on a 66 millions de procureurs, mais en tout cas, il y a une certitude, on a 66 millions de casse-couilles. C'est sûr.
Alors, on parle d'un reconfinement très serré, c'est-à-dire.
Voilà, très serré. Voilà, votre confinement, je vous le sers très serré avec un sucre ou deux sucres.
Oui, oh là là.
C'est ma grande question, je n'ai pas tranché, mais a priori, ce sera un confinement expresso, il sera court et amer avec deux sucres.
Bah, vous craignez une forme de désobéissance civile, hein, je crois, comme hier, ce restaurateur niçois qui a ouvert malgré les interdictions et il a d'ailleurs été placé en garde à vue.
Hélas, oui. Mais vous savez. Ça ne me réjouit pas, même si c'est vrai que dans nos vies, on a tous mangé dans des restaurants pour touristes à Nice. Hein. On a tous voulu que le patron finisse en prison. Hein. Parce que dans certains établissements, 39 balles l'assiette de frites surgelées et le poisson trop cuit qui est baigné dans l'huile, c'est quand même un peu leur spécialité. Bon, malgré tout, ce qui s'est passé hier n'est pas quelque chose que je veux voir se reproduire.
Bon, ok. Bah, à bientôt, monsieur Macron. François Bayrou a été photographié sans masque dans un aéroport. Bonjour, monsieur Bayrou. Bah, c'est pas terrible, hein, l'image que vous donnez, quand même. Ah oui, on sait. Madame Julie.
Non, masque ou pas masque. Ce n'est pas la question, madame Julie. Arrêtons cette forme d'hypocrisie. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de masque, c'est bien moi.
Bah pourquoi ?
Mais parce que je ne peux pas être qu'à contact, puisque je ne vois personne depuis 13 mois. Le coronavirus n'existait même pas que je ne voyais déjà personne.
Ah
même,
bon.
Ben si, regardez, même sur la photo, oui. Regardez bien, oui. Vous ne remarquez rien.
Bah, vous n'avez pas de masque.
Non, il n'y a personne à côté de moi. Donc le monde,
c'est vrai aussi, oui.
Tout le monde est serré partout, sauf autour de moi. Hein, on dirait un clochard dans une rame de métro. Non, c'est quelque part mon truc, je ne sais pas. Je fais fuir les gens. Vous imaginez Sarkozy à ma place, il y aurait eu une émeute, mais moi, non. Alors qu'on arrête de m'emmerder, excusez-moi, avec cette histoire de masque.
Bon, bah, toutes nos excuses, hein, François Bayrou.
Je vous en prie.
Les jeunes.
Il n'y avait pas trop de vannes, mais on
non.
a compris l'idée du personnage.
Ouais, mais c'était bien. C'était bien de vous avoir. Les jeunes souffrent...
C'est un bon concept de mettre une note après chaque personnage.
5 points.
Puisque M. Paul Lassen n'a que ça à foutre, il peut prendre un petit bout de papier et puis noter peut-être.
Tu veux un stylo, tiens. Hop.
Voilà.
Allez, on continue les jeunes.
Je vous en prie. Non, je sais qu'il est très occupé, mais
allez,
pas pendant ma chronique.
Il y a l'heure qui tourne là, il est 9h05, allez on y va.
Taquet.
Les jeunes souffrent beaucoup de cette période, on parle même de génération perdue. Stanislas Guérini propose un prêt de 10 000 euros pour les 18-25 ans. Bonjour Kylian Mbappé.
Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Hubert. Écoutez, merci tout d'abord à Stanislas Guérini de s'inquiéter pour nous. Hein, les jeunes qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est
oui,
un petit
c'est
peu
ça.
Nous d'ailleurs,
ouais.
Il semble... Nous sommes une génération de délaissés. Il semble que je sois éligible d'ailleurs à cette aide car j'ai 22 ans.
Ouais, mais c'est remboursable sur 30 ans à taux zéro.
Sur 30 ans ?
Ouais.
Écoutez, je pense que ça doit être jouable. Je gagne actuellement 6 829 euros la minute. Donc, d'après mes calculs, règle de 3, 22, 23. Si je joue 1 minute 20 de plus, je pense que je pourrais solder le prêt.
Dites, vous êtes dans la tourmente, hein, si on en croit les unes de la presse. Le Figaro titre.
Oui, les unes.
Non.
C'est joli les unes.
Les unes de la presse. Le Figaro titrait « Le coup de la panne ». On pouvait lire « Le prodige inquiète hein ».
Oui, mais écoutez, c'est vrai, la presse a raison, je suis nul en ce moment. Non, c'est sûr, je suis nul. Rappelez-moi juste, pardon, madame Julie,
oui.
mes statistiques lors du dernier match contre Montpellier.
Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 2 buts, une passe décisive.
Et voilà, juste 2 buts, seulement 2 buts. J'ai un doute dans le classement des buteurs, je suis où exactement
Vous êtes le meilleur buteur de la Ligue 1.
Et voilà, C'est bien ce que je pensais, je suis nul. Mais même nul, vous voyez, je reste de loin le meilleur.
Ah bah oui.
Ça c'est à réfléchir, à méditer évidemment. Nicolas Canteloup, un grand Nicolas Canteloup ce matin, permettez-moi, grand bravo avec ses 8 octaves. Nicolas Canteloup, Julie et toute l'équipe des auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, la revue de presse qui a retrouvé sur Europe1.fr. 8h57, Philippe Vandel est là, c'est Culture Média qui va démarrer dans quelques toutes petites secondes. Bonjour.
Exactement.
Philippe.
Exactement, bonjour Mathieu. Dans notre infomédia, on va parler de nouvelles revues papier qui se lancent. Chute, le magazine à l'écoute du numérique ou alors Sphère, petite communauté, grandes histoires. Comment peut-on être assez fou pour lancer un journal papier par les temps qui courent? Retour d'expérience, comme on dit, avec Sophie Comte et Lucas Bidot, ce sont les créateurs de ces journaux. Au sommaire également, complément d'enquête qui consacre un numéro à la cyberdélinquance qui devient de plus en plus dangereuse. Elle ne se contente pas, ces cyber, ces hackers, souvent des Russes, d'attaquer les grandes boîtes, mais également les hôpitaux. On en parle, nous serons avec le présentateur de complément d'enquête, Jacques Cardoz, et le réalisateur de ce sujet d'une heure, Grégory Hérault. Et puis la chanteuse Emma Domas, c'était la numéro 2 de la Starac 2.
Mais bien sûr.
Regard que ça vous intéresse.
Je me rappelle d'Emma Domas.
Et ben voilà, elle sera là. Elle sort un nouvel album, ça s'appelle L'art des naufrages.
Et c'est Culture Média. Oh bah, jour de Vendée Globe, ouais. C'est pas mal. Pardonnez-moi, Culture Média de 9h à 11h.
C'est ça la programmation.
Ah, bravo.
Je salue Laure Gignès.
Laure Gignès, la programmatrice de Culture Média de 9h à 11h. Vous allez pouvoir écouter ça, vous allez pouvoir écouter le talent de cette équipe, ouais. Puisque ça continue la matinée. Moi, je vais vous laisser. Hein. Je pars pour la journée. Je reviens demain matin, en revanche, en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.